Radio Okapi.
À la clôture du forum Indaba Mining en Afrique du Sud, le Premier ministre congolais, après son opération Séduction, a tenu à rassurer les investisseurs quant à la stratégie mise en place pour élever les défis sécuritaires afin d'améliorer les climats des affaires en RDC. Journée internationale des infirmiers, c'est ce 12 mai en Ituri. De nombreux infirmiers sont au chômage à la suite de la fermeture de plusieurs structures sanitaires affectées par les atrocités des groupes armés dans les territoires de Djougou et d'Irum. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Salomo Chaloumo. Il est directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Il appelle les enseignants de son ressort à la conscience en vue de sauver cette année scolaire qui touche à sa fin. Ces enseignants sont allés en grève depuis lundi dernier. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Clôture ce 12 mai de la 25e édition Forum minier Indaba Mining à Cape Town en Afrique du Sud. À la tête d'une forte délégation congolaise, le Premier ministre congolais était dans une opération séduction devant les milliers d'investisseurs présents à ce forum. Jean-Michel Samalou Kondé s'est dit conscient de nombreux défis, surtout sécuritaires, pour améliorer le climat des affaires. Au micro des journalistes présents à Indaba, il a tenu à rassurer les potentiels investisseurs en expliquant les efforts des pacifications en cours. On l'écoute dans cet extrait choisi par Sitia Bachizi Nabizana.
La stratégie dans la lutte pour atteindre cette sécurité totale, c'est d'abord bien sûr des opérations militaires que nous sommes en train de mener sur le terrain. Mais à côté de ça, il y a d'autres stratégies, notamment le développement des infrastructures. Ce développement des infrastructures va permettre d'avoir bien sûr plus d'accès, ce qui pourra permettre aux investisseurs d'être plus libre dans le travail d'exploration qu'il doit faire et d'accès aux différentes ressources minérales. Bien sûr, à côté de ça, il y a d'autres stratégies de réinsertion, surtout des personnes qui se démobilisent de ces groupes armés. Et vous avez raison de le dire, c'est le développement qui doit être aussi une réponse par rapport à l'insécurité. Ici, l'appel qui est fait, c'est que dans le travail de pacification que nous faisons, très vite, une fois que en même temps que nous travaillons sur les infrastructures, nous allons sécuriser les investissements qui pourront venir et permettre un développement rapide. Ça sera une réponse à l'insécurité.
Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé était à la tête d'une forte délégation composée de la ministre des Mines et celui des Communications et Médias, mais aussi des gouverneurs de provinces, et notamment celui du Haut-Katanga, des députés provinciaux ainsi que des membres de l'AFEC. Le Forum minier Indaba rassemble chaque année près de 6000 participants intéressés par le secteur minier. Dans la province de la Tchopo, le carburant devient un casse-tête pour les usagers des engins motorisés. L'essence est devenue tellement rare que son prix a augmenté sensiblement. De 2650 francs le litre, il est passé actuellement à 5000. Les importateurs de produits pétroliers à partir de l'est de la RDC lient cette pénurie de carburant à l'insécurité, notamment sur la route nationale numéro 4, la route de l'Ituri. Au regard des difficultés de transport actuelles engendrées par cette situation, dans la ville de Kisangani, la population s'en plaint. Jacques Moukokole.
La rareté du carburant dans les stations-service a entraîné ipso facto l'augmentation du prix des transports dans la ville. Témoignage.
Lorsque nous regardons la situation économique et au rouge partout, et ça vient encore beaucoup plus appauvrir la population qui vit déjà dans la misère. Une course qu'on pouvait payer à 500 francs, aujourd'hui on le paye à double avec les paniers de l'aménageur aussi, ça pose encore problème.
Même les conducteurs des mototaxis s'en plaignent, en cause le manque de clientèle.
1000 francs,
personne ne veut monter. Si tu as la chance d'attraper 1000 francs, il faut en dépenser 5000 pour l'achat de carburant. On ne circule plus, on passe le temps dans les parkings, nous demandons la baisse du prix de carburant. Pour la sécurisation des camions-citernes, le ministre provincial en charge des hydrocarbures, César Messemo Wamessemo, dit que les importateurs des produits pétroliers proposent leur escorte par les FRDC.
C'est l'escorte, par exemple, des Mahagi à Bounia et des Bounia vers Mambasa. C'est cet espace-là qui est plus insécurisé.
Par ailleurs, Kisangani est sous menace de rupture totale de carburant dans un délai d'une semaine si les stations qui s'approvisionnent à partir de Kinshasa ne sont pas approvisionnées avant cette échéance, alerte le ministre des Hydrocarbures, Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Parlant toujours de cette situation de carburant en Ituri, une spéculation des prix de plusieurs produits de première nécessité, dont le carburant, s'observe depuis mercredi dans la ville de Bounia. C'est à la suite de rumeurs qui ont circulé hier dans la ville, selon lesquelles la Fédération des entreprises du Congo FEC de l'Ituri a décrété une grève sèche à partir de ce jeudi pour dénoncer les massacres des civils par les groupes armés en Ituri. C'est ce que demande le comité provincial de cette organisation patronale en Ituri, la FEC, qui demande à ses membres de revenir à la raison. Marcel Kizabiamungu.
Les marchés centraux de Bounia a été inondé mercredi après-midi par des habitants qui s'est bousculé pour faire des provisions de vivres et produits de première nécessité. Les stations-service ont été également envahies par des véhicules. Chacun voulait s'approvisionner en carburant pour ne pas être surpris par la fermeture des stations, ce qui laisse libre cours aux spéculations des prix. Un litre d'essence à la pompe est passé de 2500 à 3000 francs congolais, voire 3500 francs congolais. Cela suite à une fausse information selon laquelle les commerçants ont résolu de suspendre les activités économiques pendant 15 jours pour dénoncer les regains d'insécurité dans les territoires d'Iromo et de Djougou. Lucien Mouliri, premier vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, regroupement de l'Ituri, dément.
La FEC n'a pas donné un mot d'ordre par rapport à une grève pour la journée d'aujourd'hui. Les opérateurs économiques ne répondent pas aux rumeurs.
Dans la ville de Bounia et même au marché central, les activités se déroulent normalement ce jeudi. Cependant, la FEC se réserve les droits d'envisager dans les jours à venir des manifestations citoyennes pour dénoncer les dégâts matériels et les pertes en vie humaine dont sont victimes ses membres à cause de l'insécurité à Ituri. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le trafic routier est suspendu sur le tronçon routier Beni Kassindi depuis le début de cette semaine. À la base, les délabrements très avancés du pont jeté sur la rivière Ouloulou sur la route nationale numéro 4. Du coup, les véhicules de gros tonnage ne peuvent plus passer. Selon les usagers, une partie du mur de soutènement du pont est déjà emportée par les eaux et constitue un danger énorme. André Kitenge pour les détails.
C'est depuis lundi dernier que le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du secteur des Rwenzori dans le territoire de Beni alerte sur le délabrement de ce pont jeté sur la rivière Ouloulou. Ceci après le débordement des eaux de cette rivière qui ont fragilisé les murs de soutènement du pont. Pour le moment, indiquent les usagers, les gros véhicules transportant des marchandises en provenance de Kassindi et Beni sont stationnés de part et d'autre du pont. Seules des voitures et motos y passent à leur risque et péril. Témoignage de ce transporteur qui revient de Kassindi.
Tous les ponts sont coupés. Aucun véhicule ne peut passer car il y a longtemps qu'on nous a promis de construire un pont en y érigeant un pont provisoire, mais jusqu'à ces jours, il n'y a aucune solution. À ce moment, tous les véhicules sont stationnés de part et d'autre à cause du pont. Au gouvernement, nous voulons, comme nous les transporteurs, nous payons le péage route, nous payons toutes les taxes de l'État, nous payons tout alors. Nous sommes les partenaires du gouvernement, mais ils ne veulent pas nous aider avec toutes les taxes que nous payons. Nous trouvons que le gouvernement nous vole.
Les autorités locales du secteur des Rwenzori, notamment le chef de la localité Massambo, recommandent au gouvernement de parachever la construction du nouveau pont dont les travaux sont suspendus il y a plus d'une année faute de financement. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
En Ituri, de nombreux infirmiers sont au chômage à la suite de la fermeture de plusieurs structures sanitaires affectées par les atrocités des groupes armés dans les territoires de Djougou et Iromou. Ceux qui pressent encore déplorent les mauvaises conditions de travail, primes modiques, absence de salaire et des primes de risques allouées par le gouvernement de la RDC. Ce constat est fait par l'Ordre national des infirmiers de Bounia à l'occasion de la Journée internationale des infirmiers célébrée ce 12 mai. Cette structure lance un appel aux autorités pour garantir leurs droits. Isaac Remoyopé.
En Ituri, les infirmiers représentent au moins 70% du corps soignant dans les structures sanitaires. Cependant, cette catégorie du personnel est négligée par le gouvernement, indique l'Ordre national des infirmiers urbains de Bounia. Son vice-président indique que la plupart des infirmiers n'ont pas de salaire ni de primes de risque. Ils vivent des primes modiques payées par les recettes des structures sanitaires dans lesquelles ils prestent. Certains perçoivent moins de $20 par mois et vivent dans des conditions misérables. À cela s'ajoutent les conséquences de la guerre qui a entraîné la fermeture de plusieurs structures sanitaires, ce qui a obligé de nombreux infirmiers à abandonner leur poste. Ils vivent aujourd'hui dans l'oisiveté dans leur lieu de refuge. L'Ordre national des infirmiers de l'Ituri plaide notamment pour la restauration de la paix pour permettre la relance des activités sanitaires dans les zones affectées par la guerre et le respect de leurs droits. Élisée Undeosu.
Nous voulons la sécurité. Sans la sécurité, rien ne peut se faire. On ne peut pas espérer des souhaits de santé de qualité quand on est dans des conditions qui sont insécures. Il faut que notre gouvernement prenne ses responsabilités, qu'il puisse quand même arriver à bien rémunérer le personnel de santé, et spécialement les infirmiers, qui sont là 24 heures sur 24 heures au chevet des malades.
Pour rappel, les thèmes retenus au niveau local pour cette journée est investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
On réveille à Kinshasa deux propositions de loi déclarées recevables à la plénière de ce mercredi au Sénat. Il s'agit de la proposition de loi modifiant et complétant la loi relative aux finances publiques ainsi que celle modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Pour l'auteur de la première, le sénateur Sami Vadi Bangatita propose la révision de certains articles pouvant permettre au gouvernement de se doter des outils nécessaires pour avoir les moyens de sa politique. L'auteur de la seconde proposition de loi, l'ancien gouverneur de la province de Mongala, se propose de mettre fin aux dysfonctionnements observés dans plusieurs provinces à la suite des motions intempestives initiées contre les chefs des exécutifs provinciaux qui les empêchent de travailler pour le développement de leurs entités. Le sénateur Luimbunga Magalu Ngbanda est au micro de Michel Kifindangoy.
Vous savez que c'est récurrent, les motions contre le gouverneur, ils sont déchus régulièrement et de façon permanente. Donc nous voulons éviter que les provinces fonctionnent sous ce rythme-là pour permettre quand même au gouverneur de travailler pour l'intérêt de la population. Quand un gouvernement entre en fonction, c'est comme les cas de gouverneurs qu'on vient de lire. Faut-il commencer à faire des motions à leur endroit déjà en décembre ici, mais ils n'ont pas encore la maîtrise de la gestion des entités dont ils viennent de prendre la responsabilité. C'est pourquoi nous avons proposé qu'on accorde quand même un moratoire d'une année. C'est pas un chèque en blanc donné au gouverneur. Il y a des mécanismes de contrôle qui demeurent de façon permanente auxquels il doit se soumettre. Quand on vote un budget, il faut d'abord l'élaborer, il faut le voter, il faut commencer à l'exécuter. Si on n'a pas encore exécuté un budget, mais vous allez faire un contrôle ou vous allez faire une motion sur base de quoi? Et aussi, nous avons inséré une autre disposition dans cette proposition pour que aucune motion ne soit prise sans qu'il y ait au préalable un contrôle parlementaire.
Les deux auteurs reviendront à la plénière de jeudi 19 mai prochain dans le cadre du débat général à l'issue duquel ces propositions de loi seront confiées aux commissions respectives pour enrichissement. Et puis, les organisations féminines de la RDC plaident pour la prise en compte par le Parlement de différentes initiatives de réformes électorales en leur faveur. C'est ce qui justifie le lancement ce mercredi à Kinshasa de la campagne de mobilisation des organisations féminines pour l'appropriation de leurs propositions de réforme. Selon Maître Evelyne Moulengabo du secrétariat technique de l'initiative pour les réformes et la réussite et la viabilité électorale, leur initiative de réforme vise à faciliter la représentativité des femmes dans le scrutin à tous les niveaux. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
À part IREV, il y a d'autres initiatives qui ont été initiées par les autres réseaux et plateformes féminines. C'est comme ça que nous les avons invitées avec l'appui technique de IFES, le financement de USAID, afin que nous puissions partager tout ce que nous avons comme éléments de réforme. Et ensemble, nous allons ressortir un résumé qui soit inclusif, qui puisse rendre les désiderata de toutes les femmes au niveau de la République démocratique du Congo. Nous, en tant que IREV, nous avons comme proposition phare, au niveau de scrutin, nous avons par exemple proposé la prise en compte de la femme pour le départage des deux candidats à égalité de voix. Et nous voulons que la loi électorale se conforme à la parité. Ça, ce n'est pas un débat. Nous voulons juste que nos élus puissent respecter la Constitution. Il y a aussi l'introduction du quota et de sièges réservés aux femmes et aux personnes vivant avec handicap. Parce que nous, c'est l'inclusion. Avec IREF, non seulement la question genre, mais aussi la question de l'inclusivité.
Au sud Kivu, Justin Mabala, seigneur de guerre du territoire de Shabunda, a déposé les armes et s'est rendu à la MONUSCO accompagné d'une dizaine de combattants avec armes et munitions. Ils sont arrivés hier à Bukavu pour la suite de la procédure de réinsertion. Cette nouvelle a vraiment réjoui la population du territoire de Shabunda. Emmanuel Elamejiwa Kabidi.
Justin Mabala est un jeune âgé d'environ 22 ans. Originaire de la chefferie de Bakissi, un territoire de Chabunda, cet ancien étudiant de l'ISTEM Bukavu a rejoint le groupe armé après la mort de son père il y a environ 3 ans. Du coup, Justin Mabala s'autoproclame général. Il dirige des dizaines de combattants et se veut protecteur de la population locale. Le processus de sa reddition relève d'une longue procédure de sensibilisation soutenue par des organisations et d'autres leaders communautaires. Après avoir pris contact avec un régiment des FARDC de Chabunda, le Raya Mutomboki a préféré se rendre à la MONUSCO. À sa reddition, mardi 10 mai dernier, Justin Mabala s'amène avec une dizaine de combattants, 12 armes AK-47 et une PKM, mais aussi plus de 600 munitions de guerre. Il est escorté de Nyalubemba à Bukavu par l'équipe DDR de la MONUSCO avec l'appui de casques bleus indonésiens. Emmanuel Elamijoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Guinée, l'organe législatif mis en place par la junte a fixé ce mercredi à 3 ans la durée de la transition avant le retour des civils au pouvoir, à contrario des États ouest-africains et de la communauté internationale qui réclament un délai moins long. Et puis, le président et la première ministre de la Finlande se sont dit favorables ce jeudi à une adhésion sans délai à l'OTAN, précisant que la décision du pays nordique serait annoncée dimanche à l'organisation. Être membre de l'OTAN renforcerait la sécurité de la Finlande. En tant que membre de l'OTAN, la Finlande renforcerait l'alliance dans son ensemble. La Finlande doit être candidate à l'adhésion à l'OTAN sans délai, affirment les présidents Sauli Niinisto et la première ministre Sanna Marin dans un communiqué commun.
L'invité.
Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 appelle les enseignants de son ressort à la conscience en vue de sauver cette année scolaire qui touche à sa fin. Salomon Chalumo a lancé ce message lundi dernier à l'issue d'une réunion d'évaluation à mi-parcours qui a mis autour d'une table tous les acteurs du secteur de l'enseignement dans son entité. Ces derniers ont évoqué un certain nombre de problèmes dont l'insécurité qui handicape leurs activités scolaires. Salomon Chalumo revient sur l'état des lieux de cette année scolaire. Il est notre invité dans cette édition. Il s'entretient avec Sadiki Aboubakar. Suivez.
Monsieur Salomon Chalumo, bonjour.
Bonjour.
Quel état des lieux faites-vous de l'année scolaire en cours?
Comme d'habitude, nous devons évaluer l'enseignement dans notre province éducationnelle. Nous avons appelé les cadres de l'EPST, en commençant par les coordinateurs provinciaux, tous les gestionnaires sous-provinciaux, les syndicalistes, les chefs d'antenne CCOP, les parents, la société civile, pour qu'on puisse régler les problèmes qui rongent notre secteur.
D'une manière brève, quels sont ces problèmes-là?
Vraiment, il n'y a pas eu grand problème. Le problème seulement, c'est de respecter et de pérenniser la gratuité, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et les agents qui se mécomportent, féliciter ceux qui se comportent bien et tout comme ça.
La majorité de sous-divisions de votre entité est en proie des groupes armés locaux et même de l'ADEF, ce qui entraîne notamment des déplacements des populations et impacte négativement sur le calendrier scolaire. Comment comptez-vous sauver l'éducation de ces enfants victimes?
De notre part, au niveau des sous-divisions, nous avons des comités sous-provinciaux qui ont eu des solutions. Chaque enfant qui est venu dans un milieu insécurisé est identifié par les chefs d'établissement et au niveau du secondaire, il est exempté des frais scolaires.
La question sur la hausse des frais de participation aux examens d'État a été évoquée par quelques intervenants à la réunion d'évaluation. Et sur base de quels facteurs est-ce que les frais de participation aux examens d'État a été fixé pour cette année?
On ne peut pas se réveiller et commencer à fixer les frais des examens d'État. Nous avons un comité provincial qui gère la province. Là-dedans, il y a des membres dans notre province éducationnelle. Il y en a au niveau du Nord Kivu 1 et 2. Ils ont proposé au gouverneur de signer une arrêté qui fixe les frais. Et si vous voyez au niveau de l'étendue de la République, nous avons demandé moins de frais.
La province du Nord Kivu, comme vous le savez, fait face à ces problèmes d'insécurité de manière généralisée. Et les parents d'élèves sont, entre guillemets, des vulnérables. Mais par rapport à l'année scolaire passée, cette année, on constate une hausse des frais de participation aux examens d'État. Qu'est-ce qui explique cela?
Hausse, je dirais non, parce que ce que vous voyez dans l'arrêté, les enfants doivent payer 94 000 francs congolais pour les examens d'État. Cela veut dire une cinquantaine de francs congolais lors de la petite session. Pour la grande session, ça doit être 38. Au total, 94 000 francs congolais. Si vous prenez le temps du jour, par rapport à l'année passée, c'est presque la même chose.
À une quarantaine de jours de la clôture de l'année scolaire, il y a des enseignants qui sont entrés en grève pour notamment revendiquer la cause des nouvelles unités qui n'ont pas touché leur premier salaire comme promis. Vous avez une réaction?
Nous sommes en train de résoudre les problèmes progressivement. Le gouvernement est en train de le faire. On ne peut pas construire une maison et vouloir entrer dedans le même jour. Tel que vous avez vu, il y a plus de 2800 NI qu'on a intégrés dans la paix. En dehors de cela, il y avait plus de 20 000 enseignants payés. Cela veut dire que nous sommes en train de résoudre ce problème petit à petit et on est en train d'intégrer les enseignants dans la paix d'une façon progressive. Nous avons été avec les syndicalistes. Ils acceptent de sensibiliser les enseignants pour qu'on puisse récupérer les quelques jours qui nous restent.
On attend. Comment vont-ils continuer à vivre ces nouvelles unités non prises en charge?
Une école, c'est une école de la communauté. Localement, on peut trouver des solutions. Rien n'empêche que la communauté aide l'école.
En faisant payer des frais aux parents?
Non.
Salomon Chaloumou, qu'en est-il de frais de participation à l'ENAFEP?
Pour l'ENAFEP, le président de la République a demandé que chaque Congolais participe à l'ENAFEP gratuitement, y compris les candidats qui se trouvent dans les écoles privées. Pour les frais de Tenasosp, jusque-là, l'arrêté n'est pas encore là. Nous avons proposé au gouverneur ce qu'on peut demander aux parents, mais jusque-là, le gouverneur attend d'autres provinces éducationnelles.
Un problème d'infrastructure a été évoqué par les responsables des sous-divisions. Est-ce qu'il y a une solution envisagée dans ce sens?
Solution d'une façon progressive, oui. Je vous ai dit qu'à Beni, il est prévu la construction de 26 écoles en dur. À Boutembo, il est prévu la construction des écoles, une école par quartier. À Lubero aussi, selon les moyens disponibles.
Il est prévu dans quel cadre?
Dans le cadre du gouvernement, dans le cadre aussi d'appuyer la gratuité.
Et c'est là, c'est une annonce ou c'est un projet déjà qui est en cours d'exécution?
C'est un projet qui est déjà en cours d'exécution.
Monsieur Salomon Chaloumou, merci.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.